Vous écoutez RTL.
Et à 8h moins le quart, l'invité politique de RTL, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. Un mot d'abord de Redouane Faïd, le truand qui court toujours. Il y a peut-être eu une défaillance, a dit la ministre, qui a diligenté une enquête. Vous allez me dire que vous connaissez déjà un peu les conclusions de l'enquête ou pas ?
En tout cas, on avait tous compris qu'il y avait une défaillance. Enfin, on est tout de même relativement inquiet lorsqu'on entend le ministre de l'Intérieur commenter les attentats ou la ministre de la Justice commenter cet acte, cette évasion, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'ils sont de simples commentateurs de café du commerce et qu'en réalité, ils n'ont pas pris la mesure du danger que représentent ces défaillances, car il existe des défaillances, mais des défaillances structurelles au sein de la pénitentiaire que j'ai eu l'occasion de dénoncer lorsque je suis allé à Vendin-le-Vieil et qu'il y a eu toute cette série d'agressions par des fondamentalistes islamistes à l'égard de gardiens qui continuent d'ailleurs ces agressions. Et j'avais posé le problème en disant, manifestement dans le système pénitentiaire, il n'y a pas un modèle précis pour ceux qui sont les plus dangereux des détenus dans notre pays et qui sont en fait soumis au droit commun de l'incarcération, ce qui m'apparaissait ahurissant. Et effectivement, on voit qu'une fois de plus, il y a eu une défaillance, mais pas une défaillance du système pénitentiaire seulement, hein, car c'est une défaillance politique en réalité.
Pourquoi ?
C'est la ministre de la Justice qui est défaillante lorsque elle est saisie par des responsables du système pénitentiaire qui lui disent « il faut d'urgence transférer ce détenu dangereux, d'urgence !» et qu'elle répond « on le transférera au mois de septembre ». Donc c'est sa faute à elle.
Que l'administration, effectivement, a été prévenue qu'il y aurait des signes, etc. Vous affirmez que la ministre elle-même, en personne, a été saisie de la question.
Mais bien sûr, d'ailleurs, cette lettre a été publiée sur les réseaux sociaux. Cette lettre était adressée directement à la ministre de la Justice.
Qui n'en a pas tenu compte, bien sûr. Vous en tirez quelle conclusion ?
Qui n'en a pas tenu compte ?
Oui.
Ben, j'en tire la conclusion qu'elle n'est pas à la hauteur de la mission qui est la sienne et que les Français, une fois de plus, découvrent qu'ils ne sont pas en sécurité dans notre pays.
Demander sa démission, c'est une solution, vraiment, de fond ?
Ben, vous savez, quand quelqu'un est incompétent au poste qu'il occupe, quand même la seule solution et celle qui paraît de bon sens, c'est de la changer, non ?
Elle est incompétente. Vous savez que le Premier ministre va aujourd'hui inaugurer une série d'entretiens individuels. Vous dites ce matin à Édouard Philippe, vous devriez...
Je dis, la ministre de la Justice est responsable de cette évasion.
Le Premier
ministre, n'avoir pas pris les mesures que l'administration pénitentiaire lui réclamait de prendre.
Marine Le Pen, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, s'est exclamé à la sortie du Conseil européen vendredi « L'Italie n'est plus seule. Les 28 ont pris la mesure, ont pris en compte la situation dénoncée par l'Italie et effectivement ont confirmé leur devoir de solidarité. Vous en êtes satisfaite ?»
Non, je ne suis pas du tout satisfaite de cet accord, dont je pense qu'il ne changera strictement rien à la submersion migratoire, dont je pense qu'il n'a pas la qualité essentielle, qui est la qualité de mettre en place une dissuasion à l'égard des migrants clandestins qui souhaitent, et ils sont des millions qui souhaitent venir en Europe. Je comprends que l'Italie défende là ponctuellement les intérêts de l'Italie, puisque l'Italie est submergée comme pays de premier accueil, mais la réalité
Marine Le Pen, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu 1 million entre 2015 et 2016 qui sont arrivés sur les côtes européennes ? Combien sont arrivés en Italie depuis janvier ? Entre janvier et mai, vous le savez, avez regardé combien de personnes ?
Excusez-moi, moi je suis
14 000.
Pas. Non mais moi je suis pas le chef du gouvernement italien. Moi je suis, je souhaite être le chef de la France. Et je vous dis qu'il y a 100 000 demandeurs d'asile, un chiffre qui n'a jamais été atteint, qui ont réclamé l'asile en 2017.
Vous parliez de l'Italie, c'est
et
pour
que
ça
que
de je me permets
surcroît,
de vous préciser.
Au-delà de ces procédure de demande d'asile, car il faut que les Français le sachent, à côté de ces demandeurs d'asile, il y a également des dizaines de milliers de clandestins qui entrent dans notre pays, qui ne souhaitent pas demander l'asile, et qui que l'on retrouve un peu partout, y compris d'ailleurs à Calais, puisque en réalité, la jungle est quasiment en train de se
reconstituer. Alors, les clandestins, évidemment, c'était une estimation par définition. Emmanuel Macron a reconnu un accord, je cite, qui ne résout pas une crise largement politique, mais permet à l'Europe de continuer à avancer.
Mais avancer vers
l'Europe reste mais unis et continue d'avancer avec des propositions qui sont
contenues
dans l'accord.
L'Union européenne continue à avancer vers la falaise. Voilà, et à nous emmener avec elle. Et nous ne le souhaitons pas. Donc je souhaite évidemment que soit mis en place en matière migratoire ce que nous réclamons depuis des années. Et on finira par y arriver d'ailleurs. Sauf qu'on y arrivera parce que la situation est devenue ingérable et que nos peuples souffrent trop de cette situation, à savoir la mise en œuvre de campements humanitaires dans les pays des migrations et pas évidemment sur le territoire européen.
Alors,
qu'il soit d'ailleurs le territoire de l'Union européenne.
Plateforme de débarquement, ce projet est dans l'accord des 28.
Vous voyez, comme quoi il fallait écouter Marine Le Pen il y a 5 ans, et puis comme ça on aurait gagné énormément de temps
et on se serait
évité beaucoup de souffrances. Je pense qu'il faut confisquer les bateaux des ONG qui sont clairement les complices des passeurs. Je pense qu'il faut arraisonner les bateaux de migrants qui partent, mettre en sécurité et les ramener les rives de la Syrie ou de la Libye, de là où ils sont partis. Voilà, je crois qu'il n'y a que cela à mettre en œuvre. Et puis, je pense aussi qu'il faut une politique dissuasive d'immigration dans notre pays. Parce que, évidemment, les migrants risqueront leur vie à tenter cette traversée tant qu'ils trouveront un bénéfice qui est un bénéfice hors du commun à venir, y compris de manière clandestine, dans notre pays.
Ça veut dire que les centres contrôlés, ces hotspots, finalement, qui permettront d'examiner les situations des migrants à l'arrivée sur les côtes européennes, c'est une solution qui ne vous paraît pas propre à éviter que les migrants, ces hommes qui ont tellement souffert, ces femmes, ces enfants, ne se disséminent après dans toute l'Europe sans l'accord des pays
Tout ce qui contribue à opérer le contrôle sur l'obtention du droit d'asile dans le pays de départ et non pas sur notre territoire européen me paraît aller dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle je vous signale, j'avais réclamé il y a encore une fois plusieurs années que les demandes d'asile soient analysées dans n'importe quel consulat ou n'importe quelle ambassade de n'importe quel pays du monde, mais qu'en aucun cas ils ne puissent faire l'objet d'un examen sur le territoire national. Et vous savez pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que l'immense majorité des migrants sont des migrants économiques.
90%.
Bon, d'accord. Sauf que lorsqu'on leur refuse le droit d'asile, eh bien, ils restent quand même sur le territoire national. Et à terme, au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, ils sont régularisés ou alors ils sont naturalisés. Et tout cela crée évidemment un appel d'air absolument incroyable à l'immigration clandestine.
Marine Le Pen, Bruxelles vous réclame plus d'un demi-million d'euros. Ça date d'hier. En remboursement de dépenses injustifiées, en 2016, des cadeaux, des bouteilles de champagne coûteuses et des dîners luxueux, d'après le rapport d'audit qu'a consulté l'agence France-Presse.
Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, vous n'avez que la vision de l'AFP. La réalité, c'est que l'immense majorité de ces sommes, c'est un débat qui existe entre les groupes, d'ailleurs. Ce n'est pas que notre groupe, les groupes et le Parlement européen sur les critères d'appel d'offres mis en place par le Parlement européen. Mis en place de manière extrêmement floue, d'ailleurs. Et je vous signale que la Cour des comptes, d'ailleurs, dans son rapport annuel des comptes 2015 a recommandé au Parlement européen de fournir de meilleures orientations de l'application par les groupes des règles de dépenses des procédures
de passation de marché public. Il y a 66 000 euros de dépenses qui ne sont pas admissibles et qui doivent également être remboursées. Oui. Mais bref, je vous cite.
Ça a été remboursé d'ailleurs. Je vous signale que.
Parce que ça a été provisionné.
Ça a été remboursé par les députés d'ailleurs qui, en réalité, avaient effectué ces dépenses.
Est-ce que vous reconnaissez des dépenses somptuaires ? Est-ce que vous reconnaissez ces dépenses somptuaires qui sont dénoncées dans un rapport d'audit ? Oui ou non ?
Non, mais je veux dire,
vous dites que c'est une manipulation,
ça n'existe pas. Chaque député mesure la manière dont il souhaite dépenser pour sa communication les fonds qui lui sont alloués.
Des bouteilles de champagne à 80 euros ?
Ah, il y a deux députés... Non, il y en a six. Il y a deux députés qui ont considéré qu'ils préféraient dépenser, faire travailler les viticulteurs français pour leur objet promotionnel et acheter... plutôt des bouteilles de champagne pour les offrir plutôt que des gadgets chinois. Eh bien, manifestement, ils ont eu tort puisque le Parlement européen leur reproche cela.
Une photo publiée par Paris Match, que pas volée, j'imagine, vous montre aux côtés de votre père samedi dernier, deux de vos sœurs, à l'occasion des 90 ans de votre père. Une image de réconciliation familiale. La relation est apaisée avec votre père, Marine Le Pen ?
Il y a deux aspects dans notre relation. Il y a un aspect politique et il y a un aspect familial. L'aspect politique ne se réglera pas puisque nous sommes en désaccord et vous le savez, les divergences sont profondes et elles le resteront. Mais évidemment, je me réjouis qu'on arrive sur la voie de l'apaisement dans notre relation familiale.
Vous diriez que la guerre est terminée ? Il l'a dit, on l'a entendu sur RTL à 7h, il n'y a plus de problème.
Eh bien, je m'en réjouis.
Vous réjouissez qu'il n'y ait plus de problème,
je m'en réjouis profondément, bien entendu. La fille que je suis s'en réjouit beaucoup.
Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée ce matin sur RTL.
Merci à toutes les deux. Entretien à réécouter sur rtl.fr et à regarder bien sûr comme tous les jours en vidéo.